Vous écoutez RFI, 15h en temps universel, 16h à Belgrade et ici à Paris.
Guillaume Ouattara.
Et à la une de cette nouvelle édition d'information en Serbie, un ministre inculpé, il est accusé par la justice d'atteinte grave à la sécurité publique. Cela fait suite à l'affaire de l'effondrement du toit de Novi Sad, les détails dans un instant. La colère monte en Géorgie, l'ancienne présidente Salomé Zourabichvili a finalement quitté le palais présidentiel hier et le pouvoir vient d'instaurer de nouvelles lois restrictives. Malgré tout, les mobilisations se poursuivent dans le pays. Tandis que la communauté internationale rend un hommage quasi unanime à l'ancien président américain Jimmy Carter décédé hier, les réactions sont nettement plus mesurées en Israël. Il faut dire que celui qui avait joué un rôle crucial dans les années 70 pour la signature d'un accord entre l'État hébreu et l'Égypte était devenu au fil des années un critique de la politique du pays. Et puis sur les marchés financiers, 2024, année du grand écart entre les performances américaines et européennes. Les détails dans une poignée de secondes. 13 personnes, dont l'ancien ministre des Infrastructures et son adjoint, ont été inculpées en Serbie pour leur rôle présumé dans l'effondrement du toit rénové de la gare de Novi Sad, qui a fait 15 morts le 1er novembre dernier. Parmi les accusations figurent des infractions graves contre la sécurité publique et des travaux de construction inappropriés, c'est ce qu'indique ce lundi le procureur. Le drame a suscité une vague de protestations dans le pays, dénonçant corruption et népotisme. Sous la pression, plusieurs ministres et responsables publics ont démissionné. Les détails avec Laurent Rouy.
40 jours après leur arrestation suite à l'effondrement mortel du haut vent de la gare de Novi Sad qui avait fait 15 morts, 13 hauts fonctionnaires sont formellement inculpés par le parquet d'atteinte grave à la sécurité publique. Parmi eux, l'ancien ministre des Transports Goran Vesic et la directrice des infrastructures ferroviaires. Cette étape de procédure est inhabituellement rapide pour la justice serbe. Pour le Premier ministre, c'est la preuve que personne ne cherche à cacher la vérité dans cette affaire. Au contraire, cette inculpation est accueillie avec circonspection par les étudiants en grève qui bloquent les universités justement pour que la lumière soit faite sur l'accident de Novi Sad. Les étudiants demandent notamment la démission du Premier ministre et critiquent aussi le président Aleksandar Vučić en raison de la corruption et du clientélisme qui est la marque du pouvoir en place. Alors que le régime ne parvient pas à trouver la parade à la contestation populaire, étudiants et opposition estiment que ces inculpations ne sont qu'une énième tentative d'étouffer la crise. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
En Syrie, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiga, a appelé lundi à Damas à l'élimination de la présence militaire russe en Syrie lors d'une rencontre avec le nouveau dirigeant syrien Abu Mohammad al-Jolani. Selon le ministre ukrainien, le retrait russe serait bénéfique à la stabilité du pays et de toute la région. En parallèle, l'Ukraine a envoyé une cargaison d'aide alimentaire de 500 tonnes de farine en soutien au peuple syrien. Un geste salué par le président Volodymyr Zelensky comme un symbole de solidarité face à des décennies à deux régimes autoritaires. Une ex-présidente en résistance et un nouveau président contesté, tout cela se passe en Géorgie où Salomé Zourabichvili a finalement quitté le palais présidentiel hier alors que Mikhail Kavelashvili était investi au Parlement. De nouvelles manifestations pour dénoncer le virage autoritaire du pouvoir ont eu lieu ce dimanche soir et elles vont se poursuivre malgré les nouvelles lois répressives décidées par le gouvernement. Julien Chavanet est notre envoyé sur place.
Coller une affiche, plus de 300 euros d'amende. Utiliser un laser, près de 700 euros, presque deux fois le salaire moyen ici. À peine installé dans son nouveau fauteuil, Mikhail Kavelashvili a voulu promulguer en priorité ses premières lois répressives. Les pouvoirs de la police pour les arrestations et les gardes à vue sont étendus. Les licenciements de fonctionnaires facilités. Pour l'opposition, la liberté d'expression est désormais en danger en Géorgie. Mais devant le Parlement, ces menaces ne semblent pas pour l'instant freiner la mobilisation, à l'image de cette jeune manifestante.
Ils veulent nous faire peur, bien sûr. Mais ça ne marche pas, on n'a pas peur. Et on va continuer parce qu'on sait qu'il y aura toujours quelqu'un pour nous aider.
Si la police et l'appareil judiciaire sont aux mains du parti rêve géorgien, l'armée garde ses distances avec le pouvoir. Pour la première fois dans l'histoire du pays, il n'y a pas eu de parade militaire pour l'investiture du nouveau président. Julien Chavanne, Irma Inaridze, Tbilissi, RFI.
RFI, 16h04 à Paris. Un mot de l'actualité en France. D'abord avec ce déplacement à Mayotte du Premier ministre français François Bayrou. Il a promis un plan d'aide intitulé Mayotte debout pour reconstruire l'île dévastée par le cyclone Chido. Ce plan prévoit des mesures rapides et une deuxième phase à long terme pour réhabiliter les infrastructures et améliorer les conditions de vie. Accompagné de plusieurs ministres, Monsieur Bayrou a réitéré son objectif de rebâtir Mayotte en 2 ans. Le cyclone le plus meurtrier depuis 90 ans a causé la mort de 39 personnes et blessé plus de 5600 habitants selon un bilan provisoire. François Bayrou a également souligné la nécessité de répondre à la crise migratoire et aux problèmes d'urbanisation précaire qui affectent une grande partie de la population. Un projet de loi pourrait être présenté vendredi pour encadrer ces efforts. Et puis en France, toujours l'enquête de la Cour de justice de la République sur la gestion de l'épidémie de Covid-19 par le gouvernement a été clôturée sans mise en examen. C'est l'annonce du procureur général Rémi Heitz. Édouard Philippe, Agnès Buzyn et Olivier Véran, les anciens ministres clés de la gestion de crise, sont placés sous le statut de témoin assisté, ce qui ouvre la voie à un probable non-lieu. Les investigations avaient été ouvertes en juillet 2020 et portées sur des accusations de mise en danger de la vie d'autrui et d'abstention volontaire de combattre un sinistre. RFI 10h06 à Washington. La mort de Jimmy Carter, ancien président des États-Unis, prix Nobel de la paix, à l'âge de 100 ans, a déclenché une vague d'hommages internationaux. Saluant son engagement pour la paix et les droits humains, Joe Biden a évoqué un homme de principe, de foi et d'humilité, tandis qu'Emmanuel Macron a célébré un défenseur des droits des plus vulnérables. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a rappelé son rôle crucial dans les accords de Camp David, pierre angulaire de la paix entre l'Égypte et Israël, tandis que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué sa solidarité avec les plus vulnérables et sa foi inébranlable dans le bien commun. Des hommages unanimes donc, sauf dans les médias en Israël, où les réactions sont nettement plus mitigées. De médiateur historique, il est devenu l'un des critiques les plus virulents de la politique israélienne. À Jérusalem, la correspondance de Michel Paul.
Une approche bivalente, considérée en début de mandat comme un grand ami d'Israël, Jimmy Carter était devenu un de ses principaux détracteurs. Il est même l'un des premiers à avoir utilisé le terme d'apartheid pour qualifier la politique israélienne dans les territoires occupés. L'ancien président américain reste cependant avant tout le principal architecte des accords de Camp David en 1979, qui avait pavé la voie au traité de paix israélo-égyptien. C'est avec l'avènement du nouveau millénaire que Jimmy Carter a adopté des positions de plus en plus critiques à l'égard d'Israël. Il a en particulier dénoncé la colonisation israélienne en Cisjordanie. Encore plus controversée en Israël, son approche par rapport au Hamas. En 2006, il a estimé qu'il fallait donner une chance à l'organisation classée terroriste aux États-Unis. 3 ans plus tard, il s'est rendu dans l'enclave palestinienne avant d'appeler en 2014 à la reconnaissance du Hamas. L'ancien président américain a dans le même temps vivement condamné les actions militaires israéliennes dans la bande de Gaza, accusant notamment son armée de viser délibérément des civils. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Un mot d'économie pour finir ce journal. Et 2024 aura été marqué par une année record à la bourse de Wall Street. Tirée par la bonne santé du secteur de la tech, les marchés américains ont surperformé cette année face à des marchés européens assez moroses. L'indice Eurostox a progressé de 10% cette année contre 28% pour l'indice large de Wall Street. Le S&P 500 qui connaît sa meilleure performance annuelle depuis 1997 et l'écart ne cesse de se creuser entre les deux côtés de l'Atlantique depuis quelques années. Les raisons en sont multiples. Anne Verdaguer.
C'est une tendance de fond depuis la crise financière de 2008. Wall Street caracole en tête en termes d'attractivité et de valorisation boursière. La première explication est le contexte macroéconomique. Les États-Unis dépassent largement le vieux continent, que ce soit en termes de croissance, de productivité ou d'innovation, et cela depuis des années. D'un point de vue politique aussi, face à une Amérique pragmatique, au capitalisme débridé, l'Europe fait pâle figure pour les investisseurs, même si les garde-fous en termes de concurrence permettent de se prémunir de certaines situations de monopole. Mais les résultats sont là. Les actions des 7 magnifiques de la Bourse de New York, qui regroupent Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Tesla, Nvidia et Alphabet, ont bondi de plus de 65% en 2024, contre une hausse moyenne d'un peu plus de 6% pour les 7 plus grosses capitalisations boursières en Europe, qui comptent notamment le danois Novo Nordisk et le français LVMH. La très belle performance des entreprises de la tech américaine est portée par tout un écosystème autour de l'intelligence artificielle, dont l'essor n'en est qu'à ses débuts.
Les explications signées Anne Verdaguer pour RFI. RFI d'ailleurs, il est quasiment 15h10 en temps universel. Tout de suite, vous m'en direz des nouvelles. Retour de l'information dans 50 minutes sur la Radio du Monde.